Aujourd'hui, nous sommes dans un petit village, Le Pin, à côté de Tence. J'ai découvert une autre partie de la Haute-Loire, avec deux personnes. Tout d'abord, Carmen Mihai, qu'on a déjà écouté sur Radio Craponne, puisqu'on avait rencontré Arsac Envlet, qui est roumaine à l'origine, mais qui est professeur de français à Saint-Jean-Chapteuil, qui a écrit un roman, Bounicou, un village moldave entre dans le communiste. Et Denise Sahu, qui elle, alors fait des livres, ou essaye d'en faire, du moins, pour la jeunesse, et donc qui aussi, alors elle dessine, elle peint, et voilà, elle m'a fait voir quelques planches, justement, elle cherche un éditeur, donc si un éditeur qui écoute cette émission, on donnera les numéros de téléphone à la fin. Alors, Carmen, on s'était rencontré à Arsac, et c'est vrai que, un peu ce livre, on peut dire que c'est quelque chose, on va parler du communisme, c'est jamais facile, et un peu peut-être de la discrimination, parce que, les Roms sont roumains, hein, et on sait que la mauvaise presse qu'ils ont, et pourtant, Django Reinhardt était rome. Alors, quelle était l'idée d'écrire ce livre?
Alors, l'idée a germé doucement et pendant longtemps, mais il fallait absolument que ce livre voie le jour parce que c'est un témoignage de la manière dont, quelque part, en Roumanie, la vie gagne, quoi qu'il en soit. Le vivant tout simple. Et c'est un petit peu le sujet, c'est d'ailleurs le message qui me semblait important d'avoir aujourd'hui, que même si des changements politiques, sociétaux, comme celui de l'avènement du communisme dans un village complètement perdu en Moldavie, donc même si des changements brutaux de ce type-là arrivent, eh bien, quand l'être humain, les êtres humains, tissent ensemble cette force extraordinaire de la vie qui passe tout simplement entre le lien à la terre, la joie de vivre, l'humour, opposé donc à la violence des changements politiques, la douceur, la candeur presque, je dirais, du vivant simple en lien avec la nature qui nous environne, eh bien, ça peut vaincre et on peut toujours sortir plutôt gagnant, finalement, même des expériences douloureuses.
Alors, est-ce qu'on peut-être dire que c'est un peu une autobiographie?
On peut dire beaucoup de choses, effectivement.
Oui, parce
Le
qu'il faut...
personnage principal, c'est une petite fille de 5-6 ans
Ouais.
qui ouvre les yeux sur le monde qui l'entoure et qui observe, qui transmet au lecteur ce qu'elle voit, un petit peu comme un filtre, comme une petite caméra qui fait part de ses impressions, de ce qu'elle peut capter du vivant qui l'entoure. Et cette petite fille, oui, effectivement, c'est l'auteur quelque part.
Oui, puisque toi, il faut dire que tu as été sous le régime Ceausescu,
Oui,
hein, un petit peu, même pas mal,
Ah
oui,
oui, je
puisque
suis en fait un
tu es
enfant
parti à
tchèque.
22 ans, toi, hein,
C'est
c'est
ça.
ça,
Je suis un enfant qu'on appelle, enfin pour les connaisseurs, pour les Roumains,
ouais.
tout au moins, mais pas seulement, on appelle les enfants de Ceausescu.
Ouais.
Pourquoi les enfants de Ceausescu? Non, c'est pas
Non.
mon père, pas du tout. Tout simplement parce que lorsque je suis née, ça a été effectivement la période, l'année où il a interdit la contraception, il a interdit l'avortement, pardon.
Oui.
Contraception, on ne savait pas ce que c'était à l'époque. D'ailleurs, jusqu'à la chute du communisme, c'était
Oui.
interdit, l'avortement, la contraception, tout ceci. Il y avait très peu d'éducation sexuelle. Donc, Lorsque l'avortement a été interdit, eh bien, la population, les naissances ont triplé. Cette année-là, oui. Il y a eu 3 fois plus d'enfants que l'année précédente, tout D'accord. simplement. Et D'accord. ça a continué par la suite. Donc, oui, j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence et une partie de ma jeunesse sous Ceausescu, jusqu'à la chute de Ceausescu. J'y ai participé, même en tant qu'étudiante, à la révolte spontanée, tout à fait, là aussi... quelque peu naïve, parce que beaucoup de jeunes ont été tués, tout simplement. Ils ont perdu la vie. On y est allé avec l'insouciance de la jeunesse, je dirais. Certains, oui, ont laissé la vie. J'ai vécu jusqu'à la fin du communisme en Roumanie, et je suis partie de Roumanie quand les frontières se sont ouvertes.
Voilà, quand on brime trop le peuple, à un moment, il se révolte, hein, parce que
Totalement.
On peut pas rester, quoi. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'aller en Roumanie sous Ceausescu. Oui. Enfin, moi, j'étais que de passage, hein, donc. Mais j'ai vite compris que c'était compliqué, quand même, comme pays, hein.
Oui.
Moi, je me rappelle, les Roumains qu'on rencontrait, on ne parlait jamais dehors, hein.
Oui.
Jamais on parlait dehors. Ils nous disaient, non, on parle pas. Vous viendrez chez nous, on parlera chez nous. Alors c'est pour dire...
Sachant que chez nous, il pouvait y avoir...
Oui, il peut y avoir, mais enfin... Oui, mais enfin bon, là, je pense que c'était des... Ils savaient que où on allait, c'était donc...
Oui,
peut-être. Mais oui, c'était peut-être... Et alors moi, ce qui m'avait un peu choqué à cette époque, justement, puisqu'on parle... on était descendu à Mamaya, hein, c'est sur la mer Noire.
Oui.
Et les matins, il y avait des gens qui balayaient les rues, en fait, c'est des gens qui venaient de la campagne.
Oui.
Mais même les Roumains les voyaient d'un œil, bon, c'est des balayeurs.
Oui.
Et nous, ça nous avait un peu choqués.
Oui.
C'est vrai, hein.
Non, ce n'étaient pas des techniciens du sol.
Oui, c'est ça, oui. Voilà.
C'était des pauvres balayeurs.
Voilà, c'est ça. Et nous, ça nous a un peu choqués. Puis c'était des Roumains comme eux, hein, je veux dire. Bon, voilà. Puis sinon, après, oui, il y a le communisme, il y a à boire et à manger, quoi.
C'est un de mes regrets, d'ailleurs, que de ne pas avoir fait, en quelque sorte, le tri dans tout ce qui, tout ce qu'on a hérité à la fin du communisme. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient...
Tout était pas négatif,
tout simplement.
C'est pas possible.
Si j'ai tenu et si j'ai pu faire de hautes études en France, c'est parce que j'avais un très bon bagage
acquis
en Roumanie, communiste.
Voilà.
Donc, ça n'est pas. Par ailleurs, j'ajoute, enfin, une petite pensée pour ce que j'avais dans ce bagage-là, avec quoi je suis arrivée finalement en France. Ben avec, certes, la jeunesse, l'enthousiasme, la volonté de réussir, de poursuivre mes études, mais aussi avec le goût de l'effort, avec cette fameuse polyqualification imposée par le communisme, c'est-à-dire qu'on doit toujours savoir se débrouiller. Dans n'importe quelle circonstance, on doit essayer de faire de notre mieux pour nous en sortir. Or, ça, effectivement, ça nous a poussé à faire presque même, combien de fois d'ailleurs, mes premières années en France, et je dus dire, oui, je sais faire, alors que je ne savais strictement rien de quoi ça avait l'air, comment c'était compliqué, c'était du bricolage, c'était quelque chose de compliqué à faire, oui, je sais faire. Et après, je me renseignais, et puis j'arrivais et je me dépatouillais avec ce qui m'était donné comme travail. Donc, c'est cette volonté-là d'aller dépasser la difficulté et ne pas baisser les bras d'emblée en disant « Ah, mais non, c'est pas mon domaine.
Ouais. »
Tout est mon domaine, finalement. J'essaye, je tente, peut-être je me trompe. Mais je réessaye, et la troisième fois, je vais y arriver.
Et donc, il y a une phrase qui m'est restée, alors ça fait longtemps pourtant, mais elle m'est restée dans la tête, justement, avec un jeune étudiant roumain qui, je lui dis un jour, mais attends, comme vous êtes mené, vous, qu'est-ce que tu penses du communisme? Parce que nous, on a posé la question, hein. Il me dit, le communisme, c'est sûrement le meilleur régime du monde. Il n'y a qu'un problème. Pour que ça marche, il faut que l'homme soit honnête. Et l'homme est foncièrement malhonnête. Voilà ce qu'il m'avait dit. Voilà.
Oui, donc, je suis plutôt d'accord avec cette analyse.
Oui,
c'est brève. Mais effectivement, on dit, enfin, les communistes nous disaient, mais la réalité les a contredits.
Normalement, c'est le partage.
Nous sommes propriétaires, producteurs et bénéficiaires. Bon, c'est avec le troisième volet qu'on avait un peu de mal. Parce qu'on produisait, oui.
Oui.
En Roumanie, il y a du pétrole encore.
Ah bah,
il y a
sûr.
De l'or encore.
C'était Brașov, non, sur Brașov, non.
Sur Ploiești,
ah ouais, plus vers, ouais.
Voilà,
ouais.
Toute la vallée de la Prahova,
ouais.
De la rivière. Du gaz, du pétrole.
Oui, il y a des ressources.
Beaucoup de ressources souterraines. Une terre qui est une des plus riches en cernosium, donc une terre extrêmement fertile. Une agriculture qui fonctionnait, mais le problème, c'est que effectivement, la corruption, le mensonge, cette surveillance accrue, et surtout certaines décisions catastrophiques du dictateur Ceausescu, ont fait que, par exemple, le fait de ne devoir pas un sou à quiconque. À la chute de Ceausescu en 89, à la chute du communisme en Roumanie, la Roumanie ne devait pas un sou à qui que ce soit. On avait tout payé, la dette extérieure. Mais on était tous morts de faim. On faisait la queue pour beaucoup de yaourt, pour avoir un kilo de sucre ou un litre d'huile. Donc c'était... Enfin, voilà, des aberrations. Alors que, effectivement, c'est un pays qui, d'ailleurs, après la chute du communisme, qui s'est redressé assez vite, assez rapidement, et qui a développé surtout le tourisme.
Oui.
Énormément, qui a pu s'appuyer aussi sur l'enseignement qui n'était pas si mauvais que ça. Finalement, je répète, et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que l'on forme en Roumanie tant de médecins.
Voilà, oui, c'est ça, on en voit bien chez nous hein, maintenant. Ouais.
Absolument. Oui.
Alors, je ne sais pas, on disait à l'époque, toujours, moi je parle de cette époque, qu'en fait, quand tu dis que c'est le communisme, ça doit être le partage normalement. Hein. Mais on disait qu'en fait, sous Ceausescu, c'était 200 familles en Roumanie qui... Enfin, qui s'engraissait, quoi, voilà.
Oui, et c'était pyramidal.
Ouais.
C'était avec une surveillance accrue pour les... On était presque 23 millions d'habitants. Maintenant, on n'est même pas 20 millions en Roumanie. C'était pyramidal. Et cette surveillance-là touchait même les cercles très restreints des proches de Ceausescu. Donc, même ceux-là... étaient surveillés par d'autres.
Ouais.
Donc ça allait...
Tout le monde surveillait tout le monde.
Exactement. Enfin, et on ne pouvait pas savoir, par exemple, si dans une famille, mon frère ou mon père ou l'enfant était le surveillant.
On savait pas.
Tout à fait. Ouais. Même à ce niveau-là. Ça allait... Enfin, ça pourrissait pratiquement tout. Donc c'est allé très très loin.
Mais on sentait que c'était pourri. Parce qu'alors... quand on est arrivé en Roumanie, nous, on a dit, il faut qu'on achète, c'était l'allée, hein, je crois que c'est ça. Mmh. Là, et je dis, il faut qu'on aille changer de l'argent à la banque, et on arrive à la banque, moi je vais au guichet, je fais voir les dollars au gars, le gars il me fait comme ça, il prend un papier, et il marque dessus, rendez-vous
à tel endroit,
pour que je change.
Ouais.
Et on avait changé à 5 fois. C'est incroyable, hein.
Ouais.
Et là, après, on a compris pourquoi, parce que si les gars qui voulaient s'en aller, ou même les gars qui voulaient acheter des choses, il fallait des dollars.
Oui. Tout à
fait. Mais nous, ça nous avait vachement surpris, hein, parce que le gars qui arrive en France dans une banque qui dit non, il y aurait ça.
Ça a un petit peu à voir avec la débrouillardise qu'il fallait développer et qu'il fallait trouver des solutions. D'ailleurs, c'est ce qu'on. Enfin, je sais qu'en France, on a beaucoup d'idées.
Oui.
Pas de pétrole peut-être, mais beaucoup d'idées.
Oui.
En Roumanie, on dit « je me débrouille
oui. ».
C'est le maître mot qui est resté et qui... Et de toute façon, même à un moment donné, j'ai travaillé en Roumanie justement comme menuisier, puisque c'était mon premier métier à la base. Et ben, dans la fabrique où je travaillais, je pouvais avoir accès à un peu de colle à bois.
Ah oui, d'accord.
Que je pouvais échanger contre autre chose.
D'accord, oui, c'était...
Voilà, avec le voisin qui avait besoin justement de colle à bois pour fabriquer ses petits meubles.
Oui, d'accord.
Et en contrepartie, il avait un tuyau peut-être pour que je puisse obtenir un
viande ou quelque chose. Oui, c'est la débrouille, quoi.
Voilà, voilà. Il fallait c'était... toujours trouver et connaître quelqu'un qui connaisse.
Ça aussi, ça nous avait assez choqués parce que on a rencontré des jeunes de notre âge à cette époque, hein, c'est normal. Mmh. Et on avait passé quelques jours chez Atimishoara et on était avec des jeunes filles bien sûr qui on discutait et elles, on arrivait à se comprendre quand même parce que bon, les Roumains et nous on était impressionnés par les cinq langues déjà, nous on arrivait à bafouiller l'anglais c'est tout et elles nous expliquaient que il y avait des magasins, mais c'était des magasins pour étrangers.
Oui.
Et on pouvait acheter qu'un dollar.
Oui.
Et qu'un dollar.
Oui.
Alors, c'est sûr qu'on leur avait acheté des trucs, ben, ils étaient contents parce qu'elles ne pouvaient pas acheter. Ils ne pouvaient pas acheter. Ça, c'était assez fou quand même, hein, à l'époque.
Oui, oui. Les shops, ça s'appelait.
Ça, c'est typique du communisme. C'était comme ça.
C'est ça.
À Moscou, c'était le goût.
Moi, j'ai fait en Russie. Oui, je l'ai fait en Russie aussi. Ouais.
Et c'était même interdit de s'en approcher.
Oui,
pour
oui.
les Roumains.
Oui,
c'était pas pour nous.
Ah, mais ouais, la Russie, c'était pareil. Hein.
C'était pareil.
Là aussi, on avait l'impression qu'on avait un flic derrière.
De toute façon, le gain le plus important à la chute du communisme, ça a été le gain de liberté.
Ouais.
Liberté de circulation, liberté de penser, commencer à réfléchir par soi-même et non plus attendre l'ordre d'en haut. Tombe sur la tête du Roumain qui n'a qu'à exécuter. Et c'est vrai que, bon, ça a permis justement de renouer en quelque sorte avec une, comment dire, une réflexion plus saine.
D'accord.
C'est le gain le plus important, me semble-t-il. Mais d'autre part, et c'est là où je m'obstine à avoir ce message, il ne faut pas tout jeter à la poubelle.
Ben non,
il ne faut pas tout penser que tout était mauvais, puisque le communisme a réussi, enfin, pour autant, je suis contre le communisme, que cela soit bien clair, je ne le regrette absolument pas, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Durant le communisme, l'être humain s'est débrouillé à vivre en cohésion avec la nature. Et pratiquement, pour vous dire, quand je suis arrivée en France, on me dit, on va aller dans un village, j'habite dans un village. Et je regarde, mais je ne vois pas une vache, je ne vois pas d'animaux, des poules, des coqs et tout ça. C'était quelque part à côté de Perpignan, mais c'était une petite ville dortoir, ce qu'on pourrait appeler comme
ceci.
Or, pour le Roumain, le village... Chacun dans le village, chacun a sa propre mini ferme, on pourrait dire, puisqu'il y a la basse-cour, il y a tout ce qu'il faut pour les besoins de la famille. Donc, c'est. Voilà, par ricochet en quelque sorte, les Roumains ont été obligés de survivre grâce à la campagne, grâce aux paysans, grâce à la zone rurale. Plus de la moitié de la Roumanie est rurale encore aujourd'hui. Et ce sont finalement les paysans, la paysannerie, qui a tenu, qui a permis aux citadins de survivre.
Oui,
parce qu'il y avait de telles pénuries que... si tu n'avais pas quelqu'un, une tante, un oncle, quelqu'un, une connaissance à la campagne, tu étais mort de faim. Hein,
mais il continue en fait. Dans les villages roumains, il y a toujours cette.
Exactement,
ce que cette culture, tu décris là.
Oui, oui, cette vie campagnarde, plutôt heureuse, en cohésion avec la nature. Et par les temps qui courent, je pense qu'on peut en tirer quelque chose de là. Et c'est pour cela.
Justement, dans ce livre, Bounikou, elle envoie toutes ses réactions dans le livre.
Exactement.
Ouais.
Bounikou, c'est le grand-père. Et c'est le grand-père, le pilier, en quelque sorte,
de
la maisonnette.
Oui.
Oui, une dizaine d'enfants, quand même. Belle famille. Nombreuse. Mais où la joie de vivre perdure, envers et contre tout. Et le les communistes qui sont arrivés même dans ces villages-là reculés, ils sont en quelque sorte tenus au respect, à distance. Ils ne tombent pas dans le piège, en quelque sorte, même s'il a été obligé, en quelque sorte, de vivre avec la collectivisation, puisque la collectivisation a été imposée, oui, forcément, à tout le monde. Eh bien, Bounikou, donc le grand-père, continue à travailler son petit lopin de terre et continue à faire en sorte que l'étincelle du communisme, l'étincelle c'est le nom du journal, le seul journal, oui, communisme de l'époque, eh bien l'étincelle ne grille pas tout, en quelque sorte, et d'accord, que la vie reste ce qu'elle est. Le lien à la terre étant la seule règle, en quelque sorte, la seule, comment dire,
ben c'est la seule chance, non, c'est la seule chance en
essentielle,
sortir.
Absolument, ouais, ouais, essentielle, vitale et finalement joyeuse. Et ça a été comme une concentration du vivant sur ce lien-là à la terre. C'est de cette façon qu'on a pu tenir bon pendant des décennies. Et c'est de cette façon, je pense, que la Roumanie a pu retrouver certains réflexes de cette vitalité, puisqu'ils n'ont jamais coupé le lien à la terre nourricière, en quelque sorte.
Oui, donc, bah oui, les Roumains, heureusement qu'ils ont eu ça, parce que sinon ça aurait été d'autant plus compliqué. Hein,
si, exactement.
Puisque oui, c'est ce qu'on disait, dans les grandes villes, bah, il y avait des queues énormes. Hein,
absolument.
Enfin, moi je l'ai connu un peu ça en Russie, c'est le même genre. Hein, c'était le même genre, hein, c'était l'époque. Ouais, la pénurie, il n'y avait rien. Hein, y avait rien.
Tant que le Roumain devait s'occuper à faire en sorte qu'il puisse nourrir sa maisonnée.
Ouais.
Il n'avait pas autre chose, il ne pensait pas à autre chose. On était occupé pratiquement à ses fonctions, à ses choses vitales, mais simples. Et non, je pense que les plus touchés ont été surtout les intellectuels, qui effectivement n'avaient plus le droit ni de s'exprimer, ni d'écrire. D'ailleurs, la blague circulait, hein, c'est facilement, quand on prenait un livre entre les mains, on disait, bon, c'est à partir de quelle page? Parce que le début du livre était à la gloire de,
oui,
ouais, Ceausescu. Ouais. Et, voilà. C'est à partir de quelle page que je peux commencer à lire? Donc, oui, ça a été dur, ça a été dépassé maintenant, c'est dépassé. Pour autant, je crois qu'il y a un enseignement à en tirer et qu'il ne faut pas passer trop vite. Je crains que les nouvelles générations, aussi bien en Roumanie qu'en Occident, aient balayé un petit peu vite ce passé récent.
Sans en tirer de leçons.
Sans en tirer les leçons qui s'imposent.
Et les jeunes générations roumaines ne savent pas. Parce que je pense que les parents, qui sont peut-être de ta génération, ont coupé. Ils n'ont pas voulu transmettre ça, ils n'en parlent pas à leurs enfants. Et nous, on rencontre des jeunes en Roumanie, ils ne savent pas du tout, ils ne sont pas au courant.
C'est un peu comme après les grandes catastrophes, après la Seconde Guerre mondiale, on n'en parle pas.
Voilà, c'est vrai, moi ça je sais que les anciens qui ont fait la guerre de 14-18, moi je sais qu'il y a des gens qui me disaient, c'était mon grand-père, ils n'en parlaient jamais.
Oui.
En famille, ils n'en parlaient jamais. C'est incroyable quand même.
Parce que le décalage est très grand.
Ouais.
Peut-être aussi.
Et donc on ne peut pas les entendre, on ne peut pas les croire.
C'est difficile.
Voilà. Et puis eux, ils ont envie, en fait, les Roumains, dans le cas des Roumains, après le communisme, ils ont vraiment envie de tout balayer. On est dans une démocratie, on est capitaliste, on a des grands magasins, on peut consommer.
Ouais.
Et ils ont oublié.
Oui.
Enfin,
alors, on va faire une petite pause musicale dans cette interview, puisqu'on a parlé de Django Reinhardt, hein, qui était un Roumain, était un Rom. Et là, on l'écoute en compagnie de Stéphane Grappelli, puisqu'ils ont fait beaucoup de choses ensemble, et ça s'appelle « I Got a Rim ». « discrètement avec un jeune.
Voilà, Django Reinhardt, donc, pour eh bien, un peu habiller cette interview qu'on a avec nos deux amis, Carmen et Denise. D'ailleurs, on les retrouve tout de suite.
Enfin, ils n'ont pas oublié, mais ils veulent le croire, et du coup, ils n'en parlent pas à leurs enfants. Voilà, quand je pense au petit-fils de Tania, qui traite sa grand-mère, toi tu es communiste, toi tu es une sainte communiste en quelque sorte.
Ouais. Vous n'êtes que des communistes.
Voilà,
c'est presque devenu...
Oui, c'est une insulte, quoi.
Oui, c'est une insulte.
Mais c'est pas de sa faute si elle a vécu sur le communisme.
Elle ne pouvait pas faire autrement.
Exactement.
Il fallait mieux rien dire, sinon ça se passait mal, quoi, je veux dire. Et alors, Denise, tu y as été, toi, en Roumanie, je présume?
Moi, j'y vais depuis que je connais Carmen, je pense que j'y vais chaque année.
D'accord.
Et donc, ça fait 30 ans.
Oui.
J'ai vu le changement.
T'as connu l'ancien régime?
Non, j'ai pas connu, mais quand je suis arrivé la première fois, c'était en 1995, donc ça faisait 6 ans, 5 ans et demi que le communisme était tombé. Et franchement, j'ai pris peur. J'étais jamais allé dans un pays de l'Est.
Ah oui, si, c'est...
Et ça m'a vraiment choqué.
Oui, tu m'avais dit, on dirait qu'il y a eu la guerre ici.
Oui, oui. En 95, ça n'avait pas changé, en fait. Ça commençait à peine à changer.
Enfin, pour nous, on y était, moi j'avais un peu plus de 20 ans, mais pour nous, c'était inimaginable.
Voilà, c'est ça.
Nous, on avait nos voitures... On pouvait partir en vacances, on faisait ce qu'on voulait, on rentrait, et quand les jeunes Roumains nous expliquaient ça, puis on a vite compris, hein, je veux dire, il n'y a pas fallu 2 ans pour comprendre ce qui se passait, hein. Mais c'est vrai que c'était un peu affolant, hein, quand même. On se rendait compte que nous, on avait une jeunesse dorée, hein, finalement.
Il y a eu beaucoup de restrictions.
Ouais.
Par exemple, pour les voitures, les nombres pairs circulaient
le
dimanche, et le dimanche d'après, c'était les nombres impairs.
Il y avait très peu de voitures.
Donc,
aussi,
il y avait très peu de voitures. Il fallait 2 ans, pratiquement,
pour attendre.
Même pour avoir un frigo. Il fallait s'inscrire sur une liste. Ça mettait du temps, pour en avoir.
En 95, quand on circulait en voiture, les gens se retournaient sur notre voiture.
Oui.
95, donc ça faisait déjà 5 ans qu'il était tombé, le régime.
Ouais.
Et avec, dans les rues, il n'y avait vraiment que les vieilles Dacia de l'époque communiste, qui étaient vraiment dans un état lamentable.
Les R12.
Voilà.
Les R12, mais qui étaient fabriqués en Roumanie longtemps. Renault avait mis des usines, hein, c'est vrai que... Mais, alors, ce qu'on dit, moi je leur... remets un peu, puisque j'avais été en Russie, et Moscou, et je me rappelle, donc c'était dans les années 76, et là c'était pas mal aussi, et à Moscou, je lisais l'Express à l'époque, et j'avais lu un article, le journaliste disait, vous verrez, si vous allez en Russie, à Moscou, vous verrez que les voitures garées n'ont pas d'essuie-glace. Il n'y a pas d'essuie-glace.
C'est pareil en Roumanie.
Il n'y a pas d'essuie-glace.
C'était pareil en Roumanie.
Elle a dit, vous savez pourquoi? Parce que, alors, oui, c'est ça, c'est les régimes communistes. C'est-à-dire qu'ils avaient dit, peut-être cette année, on fabrique, je ne sais pas, moi j'ai n'importe quoi, 1 million d'essuie-glaces.
Oui.
Mais ils n'avaient peut-être pas prévu. Ou qu'il y en a qui allaient se casser, il y en a qui gelaient, il y en a qui. Alors les gens, quand ils se garaient, ils enlevaient leurs essuie-glaces, ils mettaient dans la voiture.
Absolument.
J'avais été impressionné,
Non, c'était pareil en Roumanie.
C'était pareil en Roumanie. Ça a été ça.
Et ça me rappelle aussi que des fois, il y avait des cars de touristes ukrainiens qui arrivaient chez nous en Roumanie, parce que bon, on ne pouvait faire du tourisme que entre les communistes. On se mélange pas avec les occidentaux. Et ils venaient, en fait, ils avaient de la marchandise sur, parce que souvent ils étaient payés en nature. Je me rappelle, ils avaient plein d'ampoules, par exemple. Et ils vendaient les ampoules un peu à la sauvette.
Oui, ça faisait,
dans la rue.
Ben là, ils mettaient à faire la sauvette, parce que... Nous, je sais qu'en Russie, quand on est descendu du car, on a vu une volée de jeunes qui arrivaient. Enfin, ça n'a pas duré, parce que les flics sont venus. Mais ils voulaient acheter les blue jeans. Ils n'avaient pas de blue jeans à l'époque. Ils n'avaient pas de blue jeans.
Je sais.
Vous savez. Non, mais c'est incroyable. C'est pour ça, ça nous paraissait... Mais déjà, on parlait... à Moscou, le GOM, c'était le seul grand magasin qu'il y avait. Et quand nous, on a vu comment leur calculatrice, c'était des bouliers. Ils avaient pas... C'était déboulé, mais c'était incroyable.
Oui, oui. Mais c'est avec ça que j'ai calculé pendant mon collège.
Ah bon, sûr, ouais, enfin, voilà.
L'école primaire.
Et ouais.
Tout à fait. Et pour le blue jean,
oui.
Le premier, ça a coûté un salaire.
Oui, c'était...
Au marché noir, oui. En 87, je me souviens. Un salaire entier, un mois de travail pour avoir un pantalon.
Oui. Et oui, ils n'avaient rien, quoi. Ils avaient rien. Moi, d'ailleurs, ça m'avait surpris à Moscou. À part le gomme, il n'y avait rien.
Ouais.
Il y avait, et pourtant, Moscou, c'est une grande ville. Hein, c'était... Mais il n'y avait rien du tout. Rien du... D'ailleurs, on avait voulu acheter une toque. Parce que il y a des jolies, elles sont jolies. Et alors, il y en avait où on était dans les hôtels, les magasins pour étrangers. Mais avec un copain, on dit merde, on va pas acheter un truc là. On va acheter quand même un truc qui est fabriqué. On a réussi, on prend un taxi, on a réussi à faire comprendre au taxi qu'il fallait nous emmener chez quelqu'un qui fabriquait des toques. Il nous y a amené, mais le gars, il nous a fait comprendre qu'il ne pouvait pas nous les vendre parce qu'il devait en fabriquer tant et que ça partait tout pour l'État.
Tout était...
Pour,
tout était surveillé.
Ouais, on ne pouvait pas... Alors, c'était unique, hein, quand même. Nous, ça nous paraissait... un monde, hein. Le...
Ah, c'était un autre monde.
Ah, ouais, plein... oui, non, mais plein de choses. Oui.
En fait, c'est quand... vrai, quand on arrive la première fois dans un pays comme ça, on y croit.
Oui, puis quand on est jeune et qu'on a la liberté qu'on a, nous.
Je me suis rendu compte qu'en fait, la liberté roumaine, c'est. Comment dire, c'est figé en quelque sorte, ou en tout cas, c'est trouvé un peu comme un ruisseau. C'est trouver un petit chemin pour pouvoir se loger, en quelque sorte, dans la langue roumaine.
Ouais.
C'est que, au niveau de notre langage, de notre manière de dire les choses, sans avoir l'air de dire quelque chose, qui a développé, d'ailleurs, un double langage. Et un langage, bon, on avait la langue de bois, hein, ce qu'on appelle la langue de bois, voilà, ouais. Le communisme, donc le bon discours.
Ouais.
Mais on avait en même temps l'humour qui nous tenait en quelque sorte en vie.
Ouais.
C'était salutaire que de pouvoir faire la petite blague, mais sans avoir l'air de faire une blague. Ce qui était quand même assez... Enfin,
compliqué.
C'était des véritables prouesses linguistiques.
Ouais.
Mais de plus en plus, on a développé ce langage et cet humour. D'ailleurs, il y a même des livres, je pense justement à un recueil sur l'humour noir du communisme, qui fait lumière un petit peu sur toutes ces blagues.
Il fallait que ça soit en telle sorte qu'on ne puisse pas vous accuser.
Oui, voilà, c'est ça. Blague,
tout à fait.
Oui,
parce que
c'était gagné. Hein.
Absolument. La moindre allusion pouvait nous emmener en prison.
Et alors, dans ce livre, Bounico, village moldave, dans le communisme, tout ce qu'on a parlé, on va le retrouver dedans.
Tout à fait. On retrouve en fait une monographie du village, la vie du village, au jour le jour. On plonge dans cette atmosphère la paysanne, plutôt tranquille, sereine, pas tout à fait, parce que c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, donc les gens venaient à peine de retrouver en quelque sorte une bouffée d'oxygène, ils étaient en train de panser leur plaie de la Seconde Guerre mondiale, et enfin ils soufflaient après ces cataclysmes-là, et peu à peu, on voit s'insinuer dans ce monde tranquille, dans ce monde vu comme un monde féerique par la petite fille, on voit s'insinuer des choses qui bousculent un peu, qui semblent étranges, bizarres. Tiens, l'argent, l'appât du gain, tiens, il y a des tels petits avantages de ce côté, tiens, il y a tel personnage... tel garde forestier qui devient tout à coup un personnage important. Pourquoi ? Parce qu'il avait été acheté par les communistes pour pouvoir infiltrer, pour pouvoir s'insinuer et faire en sorte que tout le village soit gagné à la cause des communistes. Donc dans un premier temps, voilà, on voit s'insinuer le mal, en quelque sorte, sur un terrain sain, vivant, joyeux, Et on voit aussi ce choc entre les repères spirituels du village roumain, l'orthodoxie, le pop, qui se retrouve face à Ceausescu. Et on observe justement ce que chacun tient comme rôle. Il n'y a pas loin aussi les policiers, hein, la milice de Ceausescu, mais qui en même temps, ce sont des miliciens, mais ce sont des bons gars du village qui aiment bien le vin rouge qui coule à flot dans ce village-là, puisque les Moldaves aiment et produisent d'ailleurs un très bon vin qui est très réputé. Donc il y a beaucoup de vie. On voit aussi les tziganes. Qui font partie du paysage roumain, oui. Qui sont bien installés ou qui sont souvent de passage parce que leur chemin est toujours l'équivalent de notre maison, oui. Stable. Eux, c'est la route. On voit, ce sont des séquences de vie qui nous permettent de saisir le monde d'avant, le monde des années. Des années qui vont d'après la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 70-75.
Et alors quand on parle de ça, ça aussi on avait été surpris, nous, la propagande. Mmh. On avait été passer quelques jours au delta du Danube. Alors en 74, c'était le Moyen-Âge. Hein. Par contre, c'était un rapport humain extraordinaire. Hein. Mais on attendait toute la journée, il y avait la sono dans le village, donc on ne comprenait pas le russe, hein, mais ça, c'était que de la...
Propagande.
Oui. Et ça nous avait un peu surpris aussi. Hein, c'était...
Il faut savoir que de toute façon, il n'y avait qu'une chaîne
donc,
de télévision, par exemple, qu'une radio.
Oui.
Et que là-dessus, bien évidemment, c'était muselé, totalement muselé. On avait 10 minutes pour les enfants, l'heure des enfants, hein, pour les dessins animés. On avait le téléjournal qui occupait pratiquement sur les quelques heures, puisque c'était que le soir. Hein, toute la journée, ça diffusait pas tout le temps.
Ouais.
Hein, c'était pas... Donc, pratiquement, je dirais, à environ 2/3 du temps était réservé au communisme, au Ceausescu, aux visites. À un moment donné, je me demandais, enfant étant, comment faisait-il pour être tout le temps, partout, enfin, le don de l'ubiquité, était en visite de travail partout dans le pays.
Ouais.
Enfin, je sais pas, ça devenait ahurissant. À quel point il occupait la scène et comme probablement on pourrait peut-être comparer avec ce qui se passe en Corée du Nord maintenant,
voilà,
et à quel point il occupe la scène et les têtes des Coréens. On ne laisse plus de place ni pour la réflexion ni pour l'existence des individus, tout simplement.
Alors bien sûr que après la chute du communisme, c'est sûr que pour ceux qui ont vécu le communisme, ça a été un grand boom, hein, parce que je pense qu'il a fallu le temps aussi de comprendre que ça avait changé. Enfin, moi c'est mon avis, parce que c'est vrai, on dit du jour au lendemain le communiste arrête, mais le gars qui a vécu 40 ans sous Ceausescu, il va hésiter même, je pense, à dire, t'es sûr qu'on est bien libre, t'es sûr.
C'est
parce qu'il y a eu un temps quand même de...
Absolument. Oui, et puis c'est peut-être pour ça aussi que très souvent on a parlé de nostalgique du communisme, qui était, je dirais, plutôt de faux nostalgique, parce que bon, on regrette le bon côté ou la stabilité. Par exemple, les prix n'ont jamais changé. Durant toute mon existence, le communisme, durant 21 ans, Le Pen a toujours été à 3,60 €.
D'accord.
C'était toujours le même pain et toujours à 3,60 €. J'arrive ici, on me dit, bon, tu veux lequel des pains? Je dis, ben, du pain. Tu veux lequel de yaourt? Ben, du yaourt. Et du fromage? Mais il y a fromage. Comment il s'appelle le fromage chez vous? Il s'appelle fromage. Parce qu'il n'y en a qu'un. Pas 300 ou 500, je ne sais pas combien. Donc, cette stabilité-là, c'est vrai, c'est rassurant quelque part. Et tout à coup, on retrouve une avalanche de produits
Ah oui, ça aussi, ça a été, ouais.
Ça fait tourner la tête.
Ouais. Ben, ça a été, d'ailleurs, c'était le problème de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Hein. Mmh. Quand les Allemands de l'Est sont arrivés à l'Ouest, ça a été compliqué pour eux. Hein.
Absolument.
C'est parce qu'ils avaient rien, et d'un coup, ils se retrouvent dans un pays où on a tout ce qu'on veut. Et alors, quand on disait que pour certains, ils sont nostalgiques, mais je pense que les nostalgiques, c'est ceux qui étaient en haut de l'échelle, quoi. Parce que.
Pas forcément. Tu penses par exemple à des personnes de ta famille, ils n'étaient pas forcément en haut de l'échelle, mais ils étaient dans une place assez confortable.
Oui, voilà.
Ils n'étaient pas dans la sphère de Ceausescu, mais
ils avaient des petits avantages. Par exemple, ceux qui travaillaient dans le commerce, alimentaire.
Ouais.
Et on savait que, bon, de temps en temps, il y avait quand même, chaque semaine, admettons, il y avait 3 camions de viande qui livraient voilà, la marchandise. Ben, forcément, il y avait au moins la moitié qui était vendue sous main.
Ah ben oui, ça, c'est...
Voilà, aux connaissances.
Oui,
ou
ouais.
Alors, tout de suite, bon, tu passes demain parce qu'à telle heure, hop,
ouais.
Tu te passerais 5 kilos de viande. Ouais. 5 kilos, non, ça
ouais,
c'est...
Enfin,
non, un kilo,
ouais,
deux
d'accord.
kilos, voilà. Et en contrepartie, tu me gardes une paire de chaussures.
Ouais, c'est la combination.
Exactement.
Voilà,
et,
ouais.
Ceux-là, oui, ils se débrouillaient pas mal.
Donc on va retrouver tout cela hein, dans ton livre, Carmen Mihai, Bunicu, un village moldave dans le communisme, avec cette jeune enfant qui, ben, elle, va dire, va avoir les réflexions dont on a parlé aujourd'hui, quoi.
Voilà, et avec le personnage aussi de Bunica.
Bunicu le grand-père.
Bunicu le grand-père et Bunica qui a justement cette maisonnée, qui la nourrit et qui surtout la nourrit pas seulement de ses très bons plats, borscht, tchorba et autres, polenta, mais aussi qui nourrit un peu tout le monde.
L'esprit.
Voilà, les mots d'esprit. Cet humour-là qui était un régal pour les oreilles et pour les villageoises qui venaient lui donner un coup de main, par exemple, puisqu'il cultivait le tabac dans cette région-là, beaucoup de tabac. Et forcément, pour travailler le tabac, il fallait que les femmes du village se regroupent le soir ou dans l'après-midi pour se raconter. C'était un peu Radio Village.
D'accord.
En quelque sorte.
Eh bien, très bien. Donc, voilà, ben, ce livre, on le trouve dans les librairies. Il est distribué.
Oui.
J'ai pas regardé qui c'était.
C'est l'édition Maya.
Ah oui.
On le trouve dans les librairies, on peut le commander.
Aussi ?
Oui.
D'accord.
Et sinon, on peut me contacter aussi.
Ouais.
Ce serait avec grand plaisir.
Ouais.
Qu'on peut faire appel directement à l'auteur.
À l'auteur, oui. Puisque, on l'a dit, je crois, en commençant, que maintenant, tu es professeur de français.
Oui.
À Saint-Jean-Chapteuil, ça aussi, c'est une belle aventure quand même, parce qu'une Roumaine professeure de français, c'est atypique quand même.
Oui, quand j'ai passé le CAPES, on était dans cette promotion-là, on était trois Roumaines qui s'apprêtaient à devenir professeur de français.
Alors déjà, quand on est français, c'est pas simple. Mais quand on est roumain, c'est un peu plus compliqué, non?
Mais j'aime les mots, j'aime particulièrement le français, parce que je trouve que c'est une langue extrêmement riche. D'ailleurs, ce livre a été écrit très riche. On trouve tout ce qu'on veut dans la langue française. Et c'est d'ailleurs, c'est un livre que j'ai écrit en français, tout d'abord, et ensuite j'ai donné une version en roumain pour le publier en même temps.
Il est diffusé en Roumanie ?
Oui.
Ah, d'accord.
Il est diffusé en Roumanie et en France simultanément.
Il doit y avoir un choc quand même en Roumanie. Pour ceux qui ont connu l'ancien régime.
Tu n'as pas eu beaucoup de retours de lecteurs. Chaque fois, tu demandes toujours les retours de lecteurs.
Oui. J'aime beaucoup avoir les retours, oui. Puisque c'est...
C'est important, hein.
Oui.
Oui.
Allô?
Oui.
Que de savoir si on a tapé juste... Si on a vu juste...
Tu as eu plus de retours de français que de roumain pour le moment.
Oui.
Pour le moment.
Très bien. Eh bien. Écoutez, merci à toutes les deux. Hein. Carmen et de l'art de Lise, on entend de faire éditer ce livre pour la jeunesse.
C'est
hein.
un petit album qui s'adresse aux enfants de 4 à 8 ans. et qui parle de la vie d'une petite enfant de cigale,
voilà,
qui rencontre des petits Français, et elle raconte tous ses voyages. En fait, j'ai brossé un tableau pas idyllique, mais quand même, j'ai cherché les côtés les plus jolis à raconter de la, ouais, vie des tziganes.
Ouais, pour les enfants, voilà. Oui,
pour c'est les vrai enfants, que... donc elle raconte tous ses voyages dans tous les pays avec les illustrations que j'ai faites. Et à la fin, c'est tellement joli que les petits-enfants lui disent « Emmène-nous avec toi ». Elle ne les emmène pas, heureusement, pour les parents. Mais voilà. Parce qu'au début, ils la reçoivent un petit peu, voilà, reculant, parce qu'elle n'est pas comme eux, elle n'est pas habillée comme eux. Elle est... Voilà, ils ne comprennent pas trop quelle vie elle mène. Finalement, ils découvrent tout ça et ils sont tellement éblouis par tous ces voyages qu'ils lui disent « Emmène-nous ». Donc cet album, je l'ai terminé. Mais j'ai pour le moment, je n'ai pas trouvé d'éditeur. Mais
ça pourrait être une chance pour les petits Français, oui, que d'être amenés, justement, ah oui, par la jeune, très jeune danseuse.
Tu veux que je fasse une suite, peut-être?
Non, oui. Si un éditeur te permet, justement, de, ouais, d'éditer, de publier cet album, qui a des illustrations magnifiques,
ouais,
ce serait un très beau voyage pour les petits. Vers un monde tzigane qui, hélas, on connaît un traitement injuste.
Oui, oui, c'est vrai aussi. Monde, oui. Ouais.
Puisque leur culture est extraordinaire. Ouais.
Et oui, mais bon.
Elle demande de l'amener, voilà. Mais bon, elle ne peut pas l'amener. D'ailleurs, elle lui dit au revoir.
Et oui, voilà. Ouais, c'est toujours pareil, hein, quand on. On sort du cocon, je dirais. Quand on est différent, c'est difficile de se faire
remettre. La différence fait peur, souvent.
Mais ouais, même, on l'a connu dans nos zones rurales. Hein,
absolument.
Quand vous arriviez, on va dire, taille, lui, il n'est pas de Craponne. Oui. Moi, je n'étais pas de Craponne, d'ailleurs, quand, oui, je suis arrivé. Oui. Mais il a fallu un certain temps.
Oui.
Pour bon, je dis pas qu'on a été mal reçu, attention,
non,
hein,
mais, il faut du
mais pour rentrer dans le, oui, un peu vers les gens et tout. Par, oui, contre, une fois que c'est fait, hein. Mm-hmm. Là, alors à ce compte-là, c'est ce qui est intéressant. Quoi, oui. Voilà. Bon, ben, on espère que tout va s'améliorer dans notre monde en perpétuel.
Hein, toujours garder l'espoir.
Changement, ouais.
Toujours garder l'espoir.
Béart, Chantel, grand chambardement, mais on y est dedans, oui, hein, complètement. Exactement. Ben merci à toutes les deux.
Merci.
Et puis on se retrouvera peut-être une prochaine fois, il n'y a pas de raison.
Oui.
Hein, pour le livre de Denise, Koula.
Absolument. Hein,
oui. Ou pour ton prochain livre, peut-être.
Oui.
Merci.
Merci.
Voilà, donc avec Carmen et Denise, et on va se quitter, bien sûr, avec Django Reinhardt et son très grand succès. pour terminer avec Django Reinhardt. Alors, si vous voulez contacter Carmen et Denise, il faut faire le 06 59 34 73 81. 06 59 34 73 81. Bien sûr, on a parlé de ce régime qui était un peu quand même space, hein. C'est ce qu'on va dire. Et on termine avec Django, inévitablement, bien sûr, un rom, et ça s'appelle Swing Guitar. Bonne journée à toutes et à tous.